c'est Patrick Dabas. Venez donc prendre l'air avec les ailes anciennes. Je vous y invite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Bonjour à tous les amis. À 20h46, ce 15 novembre 1936, André Japy vient de décoller de l'aérodrome du Bourget pour un nouveau challenge, devant l'emmener à Tokyo en moins de 100 heures, temps d'escale compris. À ce moment du récit, et puisque nous sommes à la fin de cette année 1936 bien remplie pour lui, songeons à tout ce que notre homme a effectué depuis janvier. Retour de Saïgon après son exploit, des vols en Morane 405, puis en Morane 630 lors d'une période militaire dans la réserve, vient ensuite Paris-Alger aller-retour, Paris-Moscou aller-retour, la course Paris-Saïgon, même interrompue, et au milieu de tout cela, la préparation intensive de ce Paris-Tokyo qui vient de commencer à l'instant. Selon ses calculs, Japy pourrait atteindre Tokyo en 50 heures de vol, ce qui lui laisse pas mal de marge pour les ravitaillements et les pauses. Son estimation globale est de 75 heures, si tout va bien. Première direction Athènes, puis Damas. Comme il n'est pas autorisé à survoler l'espace de l'URSS, il doit donc suivre une route sud. Son simoun est très lourd, du fait des réservoirs supplémentaires remplis de carburant. La montée en altitude est très laborieuse. Mais une fois en altitude, où théoriquement le vol est plus agréable, l'avion a tendance à givrer. Et le givrage, outre la visibilité dégradée avec des vitrages qui s'opacifient, c'est également le poids du givre sur l'ensemble du fuselage qui pose problème. Le pilote va bientôt être obligé de descendre jusqu'à 1500 mètres pour faire fondre ce givre et avoir une amélioration certaine. Il perçoit des lumières qu'il pense être celles de la ville de Vienne, puis plus tard d'autres, celles de Belgrade, et il continue vers Athènes, puis enfin Damas, son escale de ravitaillement prévue. À son arrivée, ça fait 14 heures qu'il est en l'air. Il a parcouru 3500 km. La logique pour ce challenge est d'emprunter les routes suivies par les vols réguliers d'Air France vers l'Est. Ainsi, lors des escales, on peut compter sur les équipes de cette compagnie, dont la création officielle remonte à 3 ans et qui a installé dans les aérodromes des grandes escales des unités d'intervention pour les opérations pratiques de ravitaillement et de maintenance. À peine un peu de repos et une fois l'intervention des mécaniciens terminée et les vérifications faites, Japy redécolle. La prochaine étape programmée est Karachi au Pakistan. Encore 3200 km, soit environ 16 heures de vol. Il a très peu de repères au sol et plus souvent désertique et évidemment pas d'indication météo. Et toujours cette fatigue lancinante qui le fait s'assoupir, ramené à la réalité par les variations du bruit moteur indiquant l'emballement de l'avion commençant à piquer et donc perdre de l'altitude. Il avait déjà subi cette situation avec l'aiglon en revenant de Moscou. Et il a pourtant parfois intérêt à voler à basse altitude pour mieux se repérer par rapport au sol. C'est ainsi qu'en vérifiant son cap est, bien plein est, qu'il recherche le fleuve Euphrate qui lui fera trouver Bagdad, qui est sur son itinéraire. C'est un repère attendu de confirmation, mais il n'est pas prévu qu'il s'y pose. Enfin, il atteint comme attendu Karachi, épuisé mais soulagé. Il prend un peu de repos et en profite pour envoyer un télégramme au journal L'Intransigeant qui pourra ainsi renseigner ses lecteurs sur la progression, avec illustration, du raid. Jusqu'ici, tout va bien. Il est dans les temps qu'il s'est fixé et il a suivi son itinéraire parfaitement et sans erreur. La prochaine étape est la ville d'Allahabad, au cœur de l'Inde. Toujours pas d'incident ou de contretemps, et il se pose sans problème, mais parfaitement conscient, certaines situations lui reviennent, que les assoupissements qu'il subit sont un danger mortel. Il faut absolument qu'il dorme. Il s'octroie donc quelques heures, 3 ou 4, d'un sommeil qu'il espère réparateur. L'avion, pendant ce temps, est livré aux mains des mécaniciens d'Air France pour un check-up sérieux du moteur, vérification des pompes d'alimentation en essence, de l'allumage et des bougies neuves. C'est revigoré que pilote et avion quittent le terrain d'Allahabad. Le but prochain est Hanoï. Il va longer la chaîne de l'Himalaya et retrouve les montagnes de la Birmanie qu'il a déjà affrontées et franchies lors de son raid sur Saïgon. Pas de difficultés particulières cependant, si ce n'est que, contrairement à Saint-Exupéry en route pour Saïgon et qui n'avait pas de radio pour signaler son accident, Japy n'a pas hésité à s'alourdir d'une radio. Et cette radio va être mise à l'honneur dans ce qui est resté une anecdote, mais qui lui a probablement sauvé la vie. En effet, certainement sous le coup de la fatigue, qui ne le lâche pas, il a dû s'assoupir sans cependant perdre trop d'altitude à un grand moment. Et lorsqu'il pense être à portée de radio de Hanoï, il essaie d'appeler mais n'a pas de réponse. À force d'insister, la liaison n'est pas très bonne. Il s'identifie alors qu'il était attendu. En fait, il avait dépassé le terrain depuis un petit moment, son attention n'étant pas au maximum. Et donc, il est guidé pour faire demi-tour et finit par se poser sans dommage sur le bon terrain. Il faut absolument qu'il dorme. On lui trouve un endroit tranquille pour le laisser dormir longtemps, pensait-on, mais incorrigible, il demande à être réveillé 2 heures plus tard pour repartir dans sa course contre le temps. Il constate cependant qu'il a mis 51 heures pour atteindre Hanoï à partir de Paris, malgré sa boucle de demi-tour au moment d'arriver. Exactement 50 heures, 59 minutes, 49 secondes, si l'on veut prendre les chiffres qui seront inscrits officiellement pour ce qui constitue un nouveau record de temps sur la distance. C'est beaucoup mieux que les 55 heures de 45 minutes qu'il avait fallu à Elise Hills le 16 avril 1933, donc 3 ans et demi plus tôt, pour accomplir le même trajet à bord de son Farman 291 baptisé Joe 2, accompagné du mécanicien Lemaire. À nouveau, nous croisons cette extraordinaire femme d'action et sa réputation, donc, bien entendu, nous aurons à reparler parmi les acteurs de cette période. Il a donc été réveillé comme il l'avait demandé après 2 heures. Ce n'était pas, bien sûr, assez par rapport au déficit de sommeil qu'il avait accumulé, mais personne n'a eu l'idée de ne pas obéir à ce qui était un ordre. La concession qu'il va faire à l'horloge va être de décider de se poser à Hong Kong et de ne pas faire Tokyo direct. Il n'y aura donc moins de 4 heures de pilotage pour ce tronçon comparé aux 8 heures et plus pour les autres étapes. En même temps, en longeant ainsi les côtes avant d'obliquer à l'ouest pour Tokyo, il n'aura pas le risque d'avoir à survoler la Chine, dont le survol du territoire était interdit. S'il avait voulu faire Tokyo-Hanoï à une seule traite, la ligne droite, dont il est un ferme partisan pour ses vols, n'était pas possible en réalité. Se renseignant sur la météo, on lui indique que les prévisions ne sont pas bonnes puisqu'une tempête est annoncée, qu'il rencontrerait précisément en quittant le survol de la côte en partant à l'ouest. Les conseils seraient donc de retarder un peu son départ et d'en profiter pour se reposer un peu plus. C'est un vrai dilemme. Bien sûr, il est dans le cadre d'un record à établir et en fonction du temps qu'il peut consentir à patienter, puisque le temps déjà utilisé lui laisse de la marge pour arriver dans les 100 heures du challenge. Mais il est comme il est, il aime le panache dans la réussite. C'est décidé, il part. 2400 km l'attendent, un peu moins de 10 heures de vol. 1h30 de vol le long des côtes chinoises sans problème et, comme prévu, cap nord-ouest à sa droite vers le Japon. Tout très vite, il peut constater à l'horizon en face de lui dans la couleur du ciel que la prévision de tempête n'est pas sous-estimée. Le fort vent de face qu'il rencontre augmente de façon importante sa consommation et lui laisse penser qu'il faudra sans doute un ravitaillement non prévu. En outre, en plus de la violence, le vent du sud-est dans ces endroits-là est affublé de courants rabattants vers lesquels l'avion se dirige et il est de plus en plus secoué. La visibilité étant très mauvaise, Japy réduit quelque peu son altitude, mais il est encore au-dessus de la montagne, à une distance verticale normalement suffisante pour passer. Soudain, un rabattant le met en décrochage et il se cogne très violemment la tête au plafond, ce qui l'attourdit un instant. L'avion plonge encore fortement et si le pilote arrive à redresser pour ne pas percuter la pente de la montagne et essayer d'atteindre le sommet, il ne peut pourtant éviter les arbres dans lesquels il s'enfonce, s'écrase violemment et se disloque. On sait que le crash a fait beaucoup de bruit. En effet, des ouvriers forestiers étaient dans la forêt qui avaient entendu le bruit de moteur suivi par celui du choc. Néanmoins, ils n'étaient pas à toute proximité et après 2 heures de recherche, l'odeur d'essence les a alertés et guidés vers l'avion. Heureusement, l'avion n'a pas pris feu, sans doute parce qu'il n'avait pas trop d'essence comme on l'a vu puisqu'une escale s'imposait il y a quelques minutes. L'avion n'avait pas percuté frontalement, mais il était totalement disloqué. Il fallut beaucoup de temps pour dégager le pilote car les aménagements intérieurs le coinçaient. Même si l'accès avait été dégagé par les ouvriers avec leurs outils, en l'occurrence des haches. Japy avait pu dire son nom à ses sauveteurs, preuve que même sonné, il était conscient. Mais son extraction de l'épave s'est faite dans une grande douleur du fait de ses blessures. Un brancard était constitué avec des morceaux de troncs d'arbres et des branchages pour le transporter avec beaucoup de difficultés du fait du terrain et de l'appui jusqu'au village le plus proche, c'est-à-dire assez éloigné. Il y recevra les premiers soins et plus tard transporté à l'hôpital. Je ne vais évidemment pas faire de suspense sur le sort et le rétablissement du pilote. À notre prochain rendez-vous, je vous confirmerai la suite heureuse dans un contexte d'hospitalité inoubliable. À bientôt donc pour la suite sur Altitude FM, la radio du Grand Toulouse.
Altitude FM.